RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC avec la Dream Team composée aujourd'hui de Frédéric Weiss, Kylian Verov et Stephen Brun. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Qu'est-ce qui t'arrive Stephen, t'as mis ta veste de golf pour parler basket, ça va pas du tout.
On me l'a donné tout à l'heure, je voulais l'essayer, finalement je l'ai gardé.
C'est un peu plus bad boy quand même le basket que le golf quand même. Oh, tu peux pas.
Sauf Happy Gilmore, tu l'as vu?
Happy Gilmore?
Ouais.
Non, je veux pas.
Le mec qui joue au golf avec une crosse de hockey. Personne l'a vu, là, avec Adam Sandler?
Non, vraiment pas. Tout seul.
Alors, exceptionnellement, nous mettons en ligne ce podcast un mercredi parce qu'on a dû s'adapter à cette actualité de fin de saison de folie, ce qui me permet quand même, avant de démarrer sur le bilan de la saison NBA, de dire un mot du formidable exploit du Paris Basketball qui est donc en play-off de l'Euroleague. Et ça, quand même, il y avait une cote au début de saison, hein. Fred.
Il y avait une cote faible.
Non,
c'est moins qu'on puisse dire. Mais
c'était inimaginable.
C'est inimaginable.
Au-delà de tout ce qu'on peut dire de critique sur cette équipe qui joue pas un très beau basket, la performance est absolument phénoménale.
C'est pas que c'est pas un beau basket, c'est un basket particulier ça. C'est un peu du run and gun et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude
de voir. Il y a des équipes qui sont plus agréables à voir en Euroleague quand même.
Oui, mais bon, elle est pas désagréable à voir, avoir joué non plus.
Elle te donne du frisson.
C'est pas le CSP de 93.
C'était une magnifique équipe à l'époque.
Il y avait 50
qui gagnait l'Euroleague à l'époque.
C'est une équipe divertissante. Il se passe toujours quelque chose avec le Paris Basketball. Alors ils ont des carences, mais ils ont réussi à masquer ces carences parce qu'elle a gagné au Real Madrid sur un match couperet. Ils n'ont pas perdu beaucoup les matchs couperet le Real Madrid dans leur histoire. Aller faire ça. Et bon,
Kevarius Hayes, il est pas gentil comme mec, non?
Si, c'est un super mec.
Ah bon?
Mais rôle très ingrat dans cette équipe.
il va à la baston, quoi. Son rôle,
c'est faire les écrans, mettre des dunks. C'est le seul bon pivot de cette équipe-là. Et ouais. Il a joué, ça fait 8 mois qu'il est tout seul, hein, quasiment.
C'est donc un spécial bilan. On va essentiellement parler NBA, pas uniquement. Hein, on parlera aussi du basket français. Vos enchantements et vos déceptions de la saison pour commencer. Parce qu'il y en a qui disent point fort ou coup de cœur. Ou... Non, nous, ce sont des enchantements.
Les enchantements.
T'as été enchanté par quelque chose, toi?
Oui, il y a des choses qui m'enchantent, surtout sur la fin de saison.
T'as été enchanté par la deuxième mi-temps de Vitinha?
moyennement. Non, je suis enchanté par les vieux briscards de la NBA.
Bien sûr.
Fantastique, les Kawhi Leonard, les Stephen Curry, je vous en dirai un mot. Le bilan des Français et surtout vos attentes pour la saison prochaine, ça sera la deuxième partie. Et puis vous allez distribuer des récompenses, le MVP bien sûr, le Rookie of the Year, la meilleure progression de l'année, le meilleur coach de l'année, le joueur défensif. On en a l'habitude et ce sera un quiz
la
spécial
pompe à vélo de la
bilan où là on sortira de la NBA. On fera un bilan de cette saison du basket.
Un bilan politique. Un bilan politique.
Par exemple, j'espère que vous avez suivi le championnat brésilien, le championnat australien.
Bien sûr.
Il y aura des questions là-dessus. C'est parti.
Thompson this time with a defensive play. Now for Tilly Green.
C'est la chanson en entier ou quoi?
Je vous ambiance un peu, c'est normal, non?
Ah ouais, gros.
Oh.
La chanson en entier, gros.
C'est une émission bilan, il faut être joyeux, il faut être heureux, profiter un peu de la vie, des commentaires de basket sur une bonne petite musique. C'est ça la vie, Fred.
C'est ça la vie. Tu pourrais faire 45 minutes en écoutant juste ça?
Ouais, sans problème. Ouais. Tu sais, des fois, je passe 45 minutes à regarder des highlights de basket avec de la musique, hein, ça me dérange pas. Hein.
Oui, mais là, il n'y a pas les images.
Il y a pire dans la vie, oui, c'est vrai.
Là, tu laisses parler ton imagination.
Exactement. Quels sont vos enchantements et vos déceptions de la saison? Qui veut commencer? Fred, je te donne la parole.
Donc je peux commencer.
Allez,
oui, effectivement. Tu veux quoi?
Tu veux les enchantements?
Les déceptions, je veux dire.
Vas-y.
Alors évidemment les Suns, c'est impossible de ne pas être déçu par les Suns, même si au départ on savait que c'était un peu bancal, on s'imaginait qu'avec l'arrivée d'un meneur ça pourrait mieux se passer. Ça a viré un troisième coach en 3 ans ou en 4 ans, enfin en tous les cas à peu de temps d'intervalle, donc catastrophique. Dallas, catastrophique aussi, ce trade affreux qui a été... qui a été incroyable et qui a été en plus validé.
Tu parles du trade parce que sportivement, c'est, tu peux pas juger.
Je parle pas sportivement, mais
ce trade, ils ont été blessés dans tous les sens.
Nico Harrison qui ressort en disant non, mais moi je suis très content de ce trade finalement, donc je pense que ce mec est fou. Ensuite, Memphis, je les attendais un petit peu plus haut. J'espérais en tout cas plus haut.
Est-ce qu'ils étaient pas trop l'an dernier surtout ?
Peut-être, l'année d'avant je crois.
L'année dernière,
c'était un peu compliqué. Mais oui, peut-être, mais en tous les cas, j'imaginais mieux, j'imaginais un Jamorant un peu plus intelligent. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'est pas, il est pas aussi intelligent que je l'espérais. Je pensais qu'il s'adapterait. San Antonio, pour moi, c'est une déception aussi. Parce que San Antonio n'a pas donné ce que j'espérais non plus. Avec deux années de suite, le meilleur rookie de l'année, j'imaginais que ça pouvait prétendre à mieux. Alors oui, tout le monde me dira, il y a les blessures, et la blessure notamment de Victor.
L'enchantement des Spurs, c'est qu'ils ont encore très bien recruté.
Ils ont très bien recruté, oui. Sauf que, est-ce que ça avance? Je ne suis pas certain.
Il vaut toujours mieux prendre Stephen Castle qu'un mec.
Mais clairement, c'est pour ça qu'une nouvelle fois, un rookie de l'année, certainement. Donc, je ne sais pas, moi je m'attendais à mieux. Je m'attendais à une progression cette année.
Je comprends ta déception.
Donc un petit peu déçu, voilà, pour les déceptions et pour les enchantements, il y en a plus.
Alors, vas-y.
Il y en a beaucoup plus. Les Cavs, OKC, Houston, des équipes que j'aime beaucoup, qui ont été bien construites, qui sont intelligentes, qui jouent bien au basket, qui ont la plupart un très bon coach, même les trois ont un très bon coach, un coach que j'apprécie. Houston, ça s'est construit petit à petit avec des jeunes, des anciens qui sont acclimatés à ça. OKC qui travaille bien depuis des années pour avoir ses tours de draft avec Shea en plus. Et les Cavs, Kenny Atkinson qui fait une saison fantastique. Et Détroit.
Tu les vois capables d'aller au bout, les Cavs, en un mot ?
Pas du tout. Mais je trouve que sur la saison régulière,
c'était
super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé. Et si je devais vraiment en choisir qu'une, ça serait Détroit. Et aussi Kate Cunningham, mais par extension, j'ai envie de dire, des trois qui étaient quand même la pire équipe l'année dernière, qui a recruté comme il fallait, qui a trouvé des anciens
très
qui sont
équipe,
fondus dans le moule, JB Bickerstaff qui fait un taf incroyable. Donc des trois, ce serait peut-être mon plus gros enchantement, parce qu'en plus, ça joue bien au basket, et il y a un vrai pivot, Jalen Duren, qui me plaît beaucoup.
Allez, on va mettre les Suns et Détroit.
Je voudrais juste ne pas oublier Gershon. Gershon aussi, qui a été une satisfaction énorme.
Tu veux finir l'émission à quelle heure, Fred ?
Alors, j'ai encore...
Kylian, tes enchantements, tes déceptions.
J'ai du mal à croire que tu aies parlé des déceptions sans parler des Sixers.
C'est pas une déception, c'est une équipe de daube.
Oui, c'est une équipe de daube, mais qu'on attendait quand même au début de la saison.
T'étais bien le stud à penser que les Sixers iraient loin.
Non, tu peux pas dire ça quand tu recrutes un Paul George.
Paul George qui a 45 ans, qui est en déambulateur.
Parce qu'il fait une saison comme ça, mais au début de la saison, tu disais pas ça. Au début de la saison, Jojo Embiid, c'est pareil.
Jojo Embiid, tu l'as vu au JO ?
Jojo Embiid, il s'est tué en faisant les JO.
Il joue aussi bien, il court aussi bien que moi. Jojo Embiid,
il a appelé les Sixers, il a dit je fais les JO et puis après la saison, vous faites ce que vous voulez, mais je serai plus là.
Ben c'est ce qu'il
a Boule et Bill, qui est Boule et qui est Bill ?
Boule, c'est moi, j'espère.
Mais non, mais les Sixers, c'est catastrophique quand on voit Embiid qui
sort. Vous savez que Bill, c'est le chien ?
Oui.
Moi, j'ai toujours cru que Bill, c'était
le gamin. Non, et Boule, c'est le petit garçon.
Ouais, j'ai Boule et Bill.
C'est pas une anecdote, ça.
Mais normalement, Bill, c'est le gars. Tu vois, c'est pas un prénom de chien,
mais non. Et Boule, ça gagne pas un prénom de garçon.
Bref. Tout le monde appelle son enfant.
Si, le mec
Boule.
De Formalia, le mec de Formalia, il s'appelle la Boule.
Pourquoi pas la crampe tant qu'il est dans. Comment il s'appelle ce film de Tarantino.
Kill Bill.
Pulp Fiction. Bref.
On en revient à Bill, hein. Kill Bill. T'as...
Kill Bill, toujours.
Pas Kill Boule, par exemple, le mec.
Alors, vas-y.
Niveau déception, tu parlais de Jamoran, qui est un super joueur. Moi, je trouve qu'il me déçoit énormément. On l'a vu revenir. C'est certes un bon
ça
joueur.
Pourquoi ? Parce qu'il fait des grenades et des
pistolets.
Ouais,
mais qu'est-ce qu'il est débile, en fait. Tu veux quoi de ta carrière ? Si tu veux avoir une carrière à la Allen Iverson et que tu veux montrer que t'es tu peux être dominant dans une ligue, dans une équipe qui est pas sexy du tout, concentre-toi sur ton jeu et sur ce que tu fais. Arrête de vouloir être dans la provocation tout le temps, en fait. Moi, je trouve que c'est hyper décevant d'un mec qui a été suspendu pour ça, qui revient et qui doit prouver et qui, au final, refait exactement les mêmes erreurs et rentre dans la provocation. Et au final, on voit que il s'est blessé cette nuit, je crois, d'ailleurs. Il est peut-être pas si physique que ça. Il marque un peu le pas aussi au niveau de son jeu, même si c'est hyper impressionnant. Moi, je me disais, quand on voit un mec qui arrive comme ça dans une ligue, il peut nous faire rêver pendant des années. Au final, je trouve qu'il me déçoit beaucoup plus que ce qui me fait rêver. Après, au niveau des enchantements, Fred, tu l'as dit, je suis assez d'accord avec toi sur OKC surtout. OKC, au-delà de la domination et du fait que ce soit une saison historique, je trouve que défensivement, ils arrivent à instaurer quelque chose qui est assez rare dans cette ligue-là. Ils ont un roster qui est ultra défensif et moi, je suis assez impressionné, assez surpris, assez aimant de ça.
Très bien, donc les Sixers et OKC, on va mettre en point d'orgue pour Kylian. Steve.
Oui, bonjour.
Steve, handicap, combien au golf?
Oh non, je suis nul. J'ai pas le temps.
Bah, 36 du
normalement, tu devrais répondre, t'as des bonnes mains.
Oui, mais j'ai pas le temps surtout. Si je fais du golf, là par contre, je suis célibataire.
Oui, faut que le paddle et le tennis.
Donc, pour qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Bon, on en a parlé, l'essence. Pour être un peu plus précis sur les Sixers, moi je veux surtout dire Paul George. Parce que Joel Embiid, bon, c'est un problème médical. Bon, je pense que. Mais Paul George, il arrive quand même d'une saison avec les Clippers où il est plutôt bon. Enfin, il a été pitoyable, Paul George, dans il est passé au travers des matchs.
En podcast, très bon.
Pardon ?
Très bon en podcast.
Oui, bah, oui, mais bon, d'accord. Bah, dans ces cas-là, il arrête le basket et il fait les podcasts. Donc, Paul George, qui a été honteux dans le jeu. Et pour citer une équipe qui m'a déçu, alors là aussi, parce qu'ils ont été gênés par des pépins physiques, c'est les Pelicans. C'est les Pelicans qui terminent avant-dernier de la conférence Ouest. L'année dernière, ils étaient en play-off, ils perdent au premier tour contre les Grizzlies. Zion Williamson, encore une fois, fait une saison à 30 matchs joués. Donc à un moment donné, Zion, c'est super. Là, il y a quand même accumulation de saisons où il joue pas au basket. Donc moi, les flashs...
Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux.
Non, tu peux dire, même quand il est là...
Tu peux dire qu'il a une dernière chance l'année prochaine.
Enfin, tu vas lui en donner combien de chances?
Ouais, à un moment, tu vas lui donner beaucoup de
chances. Alors les flashs, de temps en temps, il joue 10 matchs, il fait les 300...
Non, mais il n'a pas eu de blessure majeure. Il n'a pas eu de blessure majeure. Et j'ai l'impression que vu la saison qu'attaque qu'ont fait les Pelicans, ils l'ont géré. Ils lui ont fait sauter des matchs pour anticiper des blessures.
Joue 18 matchs, Dejounte Murray joue 30 matchs, McCollum, Herbert Jones joue 20 matchs. C'est catastrophique, la descente aux enfers des Pelicans. Voilà pour mes déceptions.
Bon, la saison, il faut recruter des médecins, pas des joueurs.
Ah oui, ça c'est clair. Jacques médecin. et pour ce qui m'a plu, bon, Détroit, on va pas revenir là-dessus. Kyle Cunningham qui est exceptionnel. J.B. Bickerstaff, quand même, c'est la première saison à la tête des Pistons. Ils gagnent 30 matchs de plus et ils sont en play-off. J'ai des coups de cœur individuel par un garçon des Bulls qui s'appelle Coby White, qui je trouve a fait une saison exceptionnelle. Il perd DeMar DeRozan et Zach LaVine et il se transforme en go-to guy de l'équipe pour et emmener
Josh Giddey est transformé après le trade aussi.
Ouais, très bien, mais ce qu'a fait Coby White, vrai patron, joueur qui est un peu flashy, très sympa à regarder jouer, Coby White, ultra spectaculaire. J'ai adoré sa saison et il y a un garçon dont je trouve on a très peu parlé. S'il n'y avait pas Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, je pense qu'il ferait les gros titres partout. C'est la saison de Giannis Antetokounmpo, les amis.
Bien sûr.
Il fait une saison exceptionnelle en termes de chiffres. Plus de 30 points, 12 rebonds, quasiment 7 passes. Il a fait un match à 35, 17 et 20 passes décisives. 11 triple-doubles. Il y a une progression sur la lecture de jeu et sur les passes. Enfin, la saison de Giannis, il est MVP tous les jours. S'il n'y a pas Jokic et Shai Gilgeous-Alexander.
Et surtout s'il ne joue pas avec Damien Lillard, parce qu'il est bien meilleur quand il n'est pas là.
Exactement. Les Bucks, qui sont l'équipe la plus en forme sur la fin de saison avec 8 victoires consécutives. Qui vont affronter les Spurs, on a appris que Damien Lillard était out.
On remet une petite case déception de plus pour Fred avec Lillard.
Non, pas déception. Alors non, déception, il faudrait que ce soit une surprise. Pour moi, c'est pas une surprise.
Mais non, la saison d'Yanis.
Exceptionnelle.
Bon, elle est monstrueuse, non? T'es pas d'accord avec moi?
Bien sûr
qu'elle est monstrueuse. On a parlé hier, tous les deux. De Yanis.
J'étais pas là hier, moi.
Non, hors antenne, toi. Avant-hier.
Avant-hier, oui, lundi, oui.
Bon, donc je suis d'accord avec toi. Donc, on met Yanis et les Pels en exergue pour Steve.
Voilà.
Je rajoute,
toi,
ce que j'adore, c'est. Non, coup de gueule, pas trop. Non, j'ai des vrais coups de cœur, c'est les fins de saison.
Les vieux papis.
Les fins de saison des Clippers et des Warriors. J'aime beaucoup ces deux équipes. Déjà, j'ai trouvé la saison d'Harden fantastique, que le mec a été quand même assez critiqué pour un jeu bon, spectaculaire, très fort individuellement, mais pas forcément collectivement. Je ne trouve pas que ce soit le cas. Je trouve qu'il porte cette équipe. Et puis alors, avec le retour de Kawhi, j'espère un énorme run des Clippers en play-off, parce que j'aime beaucoup cette équipe. Je trouve qu'elle est très kiffante.
Oui. Zubac derrière, là. Zubac, une saison de Zubac.
Et puis alors, bon là, je ne suis pas très objectif, parce que c'est deux joueurs que j'aime beaucoup depuis toujours, mais Steph Curry et Jimmy Butler, s'ils pouvaient aussi... Je sais pas, se révéler là encore une fois de plus, mais je sais pas, j'ai regardé un long résumé du match de la nuit contre Memphis.
Ils ont mis 82 hein, quand même.
Mais c'est exceptionnel. Steph encore nous fait du Steph encore.
Il met 3 points à la fin pour plus
mais c'est fou. C'est irrationnel en fait. Et cette équipe qui a quand même beaucoup perdu de talent, elle se reconstruit très bien. Bon, Podziemski, on va voir, hein, il va progresser encore, ouais, mais il apporte correct. Beaucoup. Je sais pas, moi j'aime bien, je suis assez bluffé.
Il joue peu. Oui. Très très peu.
Il jouait beaucoup en début de saison, après il s'est blessé.
Et il a du mal à
revenir. Je suis assez bluffé par la transformation de cette équipe juste avec le trade. c'est assez spectaculaire parce qu'ils étaient un peu nuls en début de saison quand même.
Mais Pierrot, c'est un peu.
Au début de saison, ils étaient bien. Non, ils ont eu un coup de mou et
c'est un peu comme Basket Time quand tu es rentré dans une routine, quand tu fais pas les émissions et toi tu reviens d'un coup, tu remets un petit coup de boost, tout ça. Et ça nous rebooste l'émission, Pierrot.
Bref, j'ai un peu.
Aujourd'hui, c'est Kiki. C'est Kiki qui nous.
T'as un peu notre Jimmy Butler à nous, Pierre.
Bref, j'aime beaucoup ces deux équipes. Et vraiment, les Clippers, je sais pas, les Clippers, est-ce qu'ils peuvent pas nous faire un truc de fou? Au moins aller en finale à l'Ouest.
Incroyable.
Vous y croyez ou pas?
Nicolas Batou.
Non, pas vraiment.
En fait, moi, ça fait 5 ans que j'y crois, que je les ai poussés, et là, je les ai un petit peu lâchés. Parce que.
Mais c'est pourtant l'année où ils nous séduisent le plus, peut-être.
Le haut du tableau à l'Ouest est d'une densité abominable. Ouais, les Lakers sont un très beau tableau, je trouve, quand même. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord?
Les Lakers?
Eh, tu te prends.
Minnesota. Attention à penser que Minnesota est une équipe de pique.
Ouais, c'est ça.
Regarde ce qu'il y a de l'autre côté, surtout. C'est ça. Quand même, il vaut mieux quand même Houston que OKC. Et même si c'est les Warriors, quoi qu'il arrive.
Mais Minnesota, attention.
Et moi, j'aurais pas donné Charles leur pause dans un derby de LA. Hein.
Quand l'équipe.
Ouais. Enfin, je sais pas.
Peur que OKC ce soit décevant.
Et sur les déceptions.
Après, attention, parce que Luka Doncic contre les Clippers, c'est 45 points de moyenne depuis 4 ans quand même.
C'est vrai. Et après, je voudrais juste dire un mot d'un joueur. Là, vous allez peut-être me fouetter.
Oula.
Un joueur avec qui j'ai beaucoup de mal. Qui a beaucoup de talent, je regardais ses stats encore en préparant l'émission.
Jason Tatum ?
Non,
pardon. J'ai tenté.
Non, c'est Zach LaVine. Moi, je ne sais pas si ce mec a un grand avenir en NBA pour un jour être dans une grande équipe. Je sais pas, j'ai l'impression que ça foire tout le temps autour de lui.
À la fin de saison avec Sacramento.
Bah, moi, je ne trouve pas mauvais, je suis d'accord avec Stephen.
Sur la fin de saison,
j'étais le premier à le critiquer. Je trouve qu'il a fait des trucs. Regarde, fin de saison.
J'ai l'impression que c'est la même chose tous les ans.
Tu sais pourquoi Zach LaVine, je lui tomberai jamais dessus? Parce qu'il m'a peut-être donné le meilleur concours de dunk de l'histoire.
Non, mais je dis pas que c'est pas un bon joueur. Hein. C'est un très grand joueur, mais regarde ce qu'est devenu Chicago depuis qu'il est plus là.
Tu préfères DeMar DeRozan ou Zach LaVine?
Non, DeMar DeRozan quand même. Il a plus prouvé dans sa carrière, non?
Oui, il a fait plus de choses.
Il a fait plus de choses, mais je honnêtement, j'hésite.
Entre les deux?
Ouais. Maintenant, hein. Au prime, évidemment qu'il n'y a même pas
photo. Vous savez que Zach LaVine aurait pu faire l'objet d'une question du quiz où je vous donne un point si vous êtes d'accord avec moi.
Hein. Ah oui, d'accord.
Donc je vous ai parlé.
Ouais, donc on aurait perdu.
Personne n'aurait eu le point.
Je connais sa sœur, Avril.
Avril LaVine.
Ouais. Bon, vous n'avez rien à ajouter?
Et t'as pas de déception, toi, Pierrot?
Bah, Zach LaVine.
Pierrot, il n'est pas déçu, gros. C'est un mec qui est toujours heureux.
Ah, moi j'adore la NBA, tu sais, c'est du spectacle. C'est du.
Pas déçu. Même par l'OM, t'es pas déçu. Gros.
Non, alors jamais. On est rarement déçu par l'OM. On avance. Vali inside, kicking it out. Sar shooting it with 5 on the shot clock. Corner 3 is up and good. You may have a cross match on him. About a corner 3 good again for Sar. Alexander Sar has been named Rookie of the Month of December. Try to work on Sar, try to go reverse. Alex said no. Access denied. Oh, got it. Nice cross by Vali. Wow! Disturbing the peace and then mean mugging the rookie. Talk to him. Oh, good hands by Richechet. Richechet, good hands to knock it away. Zachary Richechet with a steal. In on Ingram. He slams this one. Ooh. Lob to Dulabali. Are you kidding? Wow. Simmons Shaw. Look, that's the emotion that you want to see. Allez, on fait le bilan des joueurs français et puis surtout on se projette sur la suite hein, parce que le bilan, je pense que tout le monde va être à peu près d'accord. Pour Victor, ça va être compliqué de faire un bilan quand même. Alors, statistiquement, c'est magnifique. Après, il y a cette blessure.
Il a quand même fini avec le mec qui a fait le plus de comptes sur la saison.
Et puis largement.
Je ne vois pas pendant 4 mois et demi.
C'est fou.
C'est incroyable.
Ça, t'es folle.
De toute façon, en termes de contre, il y a lui et les autres, même dans l'histoire de basket.
Oui, mais t'imagines, enfin, tu te rends compte qu'il ne joue pas depuis 4 mois et malgré ça.
Quand même, ouais.
Mais en moyenne, il a plus du double du deuxième. Hein.
Oui, c'est 24
contre par match, c'est délirant. Hein.
Contre, ouais.
Qu'est-ce qu'on dit de Victor sur cette saison 2? Fred, tu souris.
Je souris parce que moi, je suis un peu déçu.
Vas-y.
Je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que c'est une machine à stats, que c'est magnifique, que quand il est sur le terrain, c'est incroyable. Mais est-ce que son équipe a vraiment progressé cette année? Ils ont été en lice pour éventuellement aller au play-in. Je m'attendais un petit peu à mieux. En fait, je trouve que le step n'a pas été incroyable. Je me répète, ils ont une nouvelle fois le meilleur rookie de l'année. Et malgré ça, bah, je ne trouve pas ça complètement dingue. Donc, déçu parce qu'il n'a pas pu porter son équipe plus haut que ça. Je pensais que ça pourrait aller plus haut. Et déçu parce qu'on ne l'a pas vu sur la fin de saison aussi. Donc voilà, un petit peu
après,
déçu.
Après, je vois ce que tu veux dire. Alors, en plus, moi, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué que j'ai presque oublié moi, la saison de Victor Wembanyama. Mais il faut aussi se rappeler qu'à un moment donné, ils ont longtemps été à 50% de victoire. Donc ils étaient là pour le play-in avec Victor.
Oui, bien sûr.
Donc, la progression d'équipe, pour moi, elle a eu lieu un petit peu. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas assez vu jouer. Et que ça fait 2 ans maintenant qu'il est dans la Ligue. Et que, je sais pas, en fait, peut-être qu'on avait trop d'attentes, mais je reste sur ma faim sur les 2 saisons de Victor Wembanyama avec les Spurs. Alors, parce que cette année, il joue pas pendant 4-5 mois, il va falloir attendre la saison prochaine. Oui, il est encore jeune, mais la saison prochaine, Pierrot, je pense que c'est peut-être la saison charnière de Victor Wembanyama, 3e saison avec les Spurs. Il peut pas se permettre une 3e année consécutive de pas faire les playoffs. Donc, j'en attends énormément de la part de Victor Wembanyama en espérant qu'il revienne au top de sa forme.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Difficile de juger, mais là, l'année prochaine, garçon, il va falloir y aller parce que...
D'Aaron Fox sera là, il fera la préparation dès le départ, Stéphane Castel aura un en plus.
Vous vous rendez compte que vous avez dit que j'avais pas tout à fait raison, mais que vous êtes finalement d'accord avec moi que l'année prochaine, elle est charnière en fait. Que cette année, on n'en a pas assez vu et qu'on a envie d'en voir plus.
Oui,
et
non, j'étais pas d'accord sur le... Il n'a pas fait progresser son équipe alors
qu'il a
gagné plus de matchs pendant une période, mais rappelle-toi, justement, quand ils viennent sur Paris, ils venaient d'enchaîner 7 défaites de suite ou quasiment, enfin, en tous les cas, ils étaient sur une passe extrêmement mauvaise et il était là malgré ça et ils étaient en train de tomber complètement. On a l'impression que il a eu une période dans la saison où il a été très bon et après, et on en parlait avec Kylian tout à l'heure, il y a eu un moment de fatigue en fait. Et ce moment de fatigue, il n'y a plus personne.
C'est Indiana qui a pris du poil de la bête après.
Ouais, après, ouais, remarque, ça leur fait du bien.
Ça leur a fait du bien. Ouais. Si, ils ont fait du jeu.
Tyrese Haliburton, je ne sais pas ce qu'il est venu faire à Paris, mais il est revenu très en forme. Et puis il y a eu, faut pas oublier aussi, l'absence de Popovic, qui a sans doute influé aussi sur cette équipe-là et qui. A sans doute mis un coup derrière la tête à cette équipe. Peut-être que ça a impacté cette équipe sur leur bilan et leur capacité à réagir après cette nouvelle-là.
Et finalement, les Spurs, il y a pas mal de bons joueurs final. Oui. Ce qui va falloir faire un peu de ménage.
Chris Paul a joué les 82 matchs des Spurs.
Oui, c'est incroyable.
Il n'a pas loupé un seul match.
C'est sa 20e saison à faire ça, je crois.
Quand tu fais le total, finalement, il y a peu de joueurs qui ne servent à rien, mais ils sont limite trop nombreux, non ? Il ne faudrait pas imaginer un trade intelligent pour récupérer un joueur très fort de plus. Plus sacrifier à Keldon Johnson ou je sais pas qui.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il faut rajouter un peu de viande. Il y a eu le coup de chaleur de Mamou Kechalashvili sur un match exceptionnel.
Tous ces mecs-là ont des qualités.
Oui, en fait, il n'y a pas de mauvais joueurs.
Très nombreux. Bon, t'as pas besoin d'autant de joueurs que ça.
Moi, je veux voir la saison entière avec De'Aaron Fox et Victor Wembanyama. Je veux voir ce que ça donne parce que ce binôme-là, il me paraît être fait l'un pour l'autre.
Moi, j'espère que ça ne deviendra pas une machine à stats.
Et quel coach l'an prochain pour les Spurs ?
Oh, je pense qu'ils vont garder Mitch, je ne sais pas comment il s'appelle. Mitch Johnson.
Alors, on avance. Bilal.
Ouais, Bilal, là aussi, je me rappelle plus.
C'est décevant.
Il n'a pas fini.
Moi, j'en ai marre qu'ils finissent pas ces saisons.
Ouais.
C'est décevant.
Je sais pas si vous avez.
Mais le problème, mais ça, c'est le problème de jouer dans des équipes de merde. Exactement. Où à un moment donné, quand tu es un joueur. On compte sur toi pour les
si
années à venir.
Cette...
À un moment donné, quand t'as pas un à jouer et que t'as un petit truc, allez, merci, au revoir, tu vas.
Je sais pas si vous avez vu cette animation sur les réseaux, là. Washington était dernier de la première à la dernière journée à l'Est.
Ouais. Ils sont contents parce qu'ils ont
linéaire.
Ils ont fini sur un buzzer beater de Bob Carrington. Ils sont contents, ils ont gagné le dernier match.
Elle est cata, cette équipe, mais bon, après, tu.
Moi, y a un truc qui m'emmerde. C'est que Bilal, ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il a joué dans une équipe de merde, qui n'a pas gagné de match, il n'a pas appris la culture de la gagne. Les Jeux Olympiques, ça a été une vraie souffrance pour lui parce qu'il a tapé le très haut niveau ou des matchs importants de plein fouet. Là, il fait une saison où il ne termine pas encore la saison. Il est moins bon à 3 points, il fait 28%. Alors, il a été starter toutes les rencontres où il a joué. Offensivement, il a pris des responsabilités. C'est bien, ça donne de la confiance. Mais moi, ça m'embête quand tu passes des saisons à enchaîner défaites.
Enfin, après, il y a peut-être un problème mental le garçon parce que quand t'es dans une équipe comme non mais je veux dire il faut
ah bon
à un moment il faut se secouer et il faut y aller, c'est pas parce que t'es dans une équipe de merde que
oui mais il a eu une très bonne passe à un moment quand même.
Il a fait des choses, il a tenté des choses Bilal,
c'est
quand
hyper
même.
Irrégulier quand même, comment t'expliques que d'un match à l'autre il peut faire du très très bon et du très très moyen même si t'es
parce
dans une équipe
un
de merde
joueur.
Il faut
attendez vous avez le cadre est pas le plus facile non plus
et puis vous avez tendance à oublier
tous les jours aussi,
vous avez tendance à oublier que Bilal Koulibaly il y a 2 ans et demi il jouait à 17h15 à Marcel Cerdan à Levallois à enlever de rideau des pros. Alors là, il joue au Washington Wizards. C'est quand même un très jeune joueur du monde professionnel, quand même. Va pas le détruire comme ça
mais
en 2 ans.
Est-ce qu'il est tombé dans la franchise en plus qui va l'aider le plus ? Je suis pas certain.
Non, mais d'accord,
à côté de lui, il y a Jordan Poole.
D'accord, il est pas aidé. Mais garçon, prends tes responsabilités. On te les offre en plus les responsabilités. Il y a un moment, passe un cap.
D'un match sur l'autre, c'est pas à lui d'être le go-to guy. Donc c'est très dur aussi. Parce que selon leur compo, c'est lui qui doit avoir les shoots ou pas. Donc c'est sûr
mais
que
surtout, c'est pas
ses performances individuelles, elles sont trop dépendantes de ça.
Mais ce n'est pas un shooter. Mais ce n'est pas un joueur qui a un ball handling d'exception et qui peut se créer 25 tirs par match, Bilal Koulibaly.
Non, mais tu peux au moins lui reconnaître.
Oui, lui, qu'on le met dans un bon contexte, qu'on l'amène à marquer des points.
Tu peux au moins lui reconnaître que quand ils ont eu besoin de lui, il a su faire des matchs à 20 points.
Oui,
donc c'est bien quand même.
Tout en défendant à chaque fois sur quasiment les meilleurs scores.
Et dans la même équipe, tu as quand même un Alex Sarr au moins qui a montré une progression sur toute la saison. Je pense non, vous n'êtes pas d'accord.
Là, c'est satisfaisant. Non, mais moi je trouve que
premier match, c'est plus satisfaisant que Bilal Koulibaly.
Il était pas loin d'être dans les désenchantements de Fred, j'ai l'impression.
Moi je trouve qu'offensivement, il nous a prouvé il nous a montré des choses, mais on savait qu'il avait un talent exceptionnel pour son gabarit, etc.
Et ça, c'est son jeu.
Il est pas assez dur, quoi. Sauf que c'est difficile de jouer en NBA quand t'es pas dur comme ça. Honnêtement, il peut pas tenir l'homme. N'importe qui va l'impacter, il va marquer sur lui. Je suis désolé, à un moment, c'est un protecteur de cercle aussi. Il est plutôt bon contreur, mais il peut pas défendre le cercle, en fait. Et je trouve ça un petit peu triste. Donc, j'espère qu'il va progresser. Lui non plus, il est pas dans le meilleur contexte pour progresser. Mais je trouve que offensivement, il a des bonnes mains, oui. On peut pas dire le contraire. Parfois, il balance un peu, il arrose. Il a compris le principe de la NBA.
Il a pris plus de 300 tirs à 3 points.
Oui, mais il a compris. j'ai envie de dire, il a compris le principe de la NBA. Hein. Il faut pas être timide, et donc il l'est pas du tout.
Il a compris le principe de son équipe.
C'est ça. Mais est-ce que tu peux dire qu'il fait une bonne saison?
Qu'il avait progressé dans sa première saison.
Il a 7 rebonds de moyenne cette saison.
Un mot sur Alex Sarr, Kylian, on a fait le tour.
Non, je suis assez d'accord.
Alors, les autres Français, il faut parler de qui? Gershon.
Oh, Gershon, écoute, félicitations du jury.
Ouais. Bah, c'est le grand gagnant de l'année. Hein.
Il a gagné son pari. Ah,
alors, il va aller où l'an prochain?
Il aura mérité ses 40 millions sur 3 ans l'année prochaine. C'est le seul. Ouais, les Sixers veulent le garder. Maintenant, je pense qu'il va être bien demandé, mais c'est la seule satisfaction. Il y avait Jared McCain aussi, qui aurait pu être rookie de l'année, mais qui a été blessé. Mais c'est la seule satisfaction des Sixers. C'est un mec qui a joué, on l'a trimballé à tous les postes, parce qu'avec les blessures, il a joué 5, il a joué 4, parfois il a joué 3. On voulait voir ce qu'il était capable de faire à 3 points sur une ligne NBA. Il fait 38% à 3 points sur la saison. Il était irréprochable, Gershon Yabusele. Irréprochable.
Magnifique. Magnifique saison. Effectivement, il faut louer à quelqu'un qui a fait ce pari sur lui-même et qui l'a réussi.
Qui sont les autres joueurs dont il faut parler? Zachary Risaché, bien sûr.
Bah, Risaché, ouais. Bon, il a eu du mal au début de saison, mais il a fini par exploser après son retour de blessure. Moi, je remercierais quand même Atlanta, parce que c'est pas n'importe quelle franchise qui l'aurait chouchouté comme ça pendant sa blessure et à son retour de blessure lui offrir ce qu'ils lui ont offert. Il a quand même fait une pointe à 38 points. Il a relancé un débat de rookie de l'année qu'on pensait quand même plié avec Castle sur la fin de saison. Je suis assez satisfait de ce que fait Risaché quand même.
Satisfait, mais ce que je veux voir par rapport à l'année prochaine, je veux que l'année prochaine il soit plus régulier dans les performances. Je veux pas lui voir 38 et après 5 le lendemain.
Tu vois, on peut lui accorder 20. Sur sa première année.
Je suis d'accord avec toi, Fred.
C'est logique.
Et je trouve qu'il y a eu un peu trop de up and down à mon sens, à l'image du match de play-in cette nuit où il est passé un petit peu au travers.
Et qu'est-ce qu'elle vaut cette équipe d'Atlanta là?
C'est une équipe moyenne de qui a de la chance d'être dans la conférence Est pour pouvoir jouer quelques matchs en post-season.
Tu les mets dans l'autre conférence, on les voit pas.
Et avec Jalen Johnson, ça sera mieux?
Oui.
He's a very good player, Jalen Johnson.
Mais du coup, est-ce que ça peut lui faire du tort à Zachary?
Jalen Johnson?
Ouais, d'avoir moins de responsabilités, je sais pas. Hein.
Non, peut-être lui faire du bien même.
Ça fait du bien déjà, Atlanta va être une bonne équipe, va continuer à gagner des matchs. Je trouve que c'est bien Atlanta quand t'es numéro 1 de la draft. Ça veut dire que tu vas gagner des matchs, tu vas être en play-in 8-9, ça veut dire que tu vas avoir une saison où t'as quand même un objectif, où tu vas pas tout bazarder, où tu joues quelque chose. T'es avec Trae Young, qui est une superstar et qui est un bon passeur, mine de rien, même si c'est une croquette, il a une qualité de passe qui fait qu'il peut faire briller.
En plus, ils font confiance.
Exactement. Quinn Snyder est un bon coach de basket, c'est très bien pour l'évolution et l'épanouissement de.
Il a beaucoup de chance d'être tombé dans une franchise comme celle-là. Ouais.
Alors, de qui on n'a pas parlé? Nico, Batum, Rudy Gobert.
Gobert, on l'oublie un peu, mais quand même, il fait une très bonne fin de saison à l'image de Minnesota. Oui, bien sûr.
J'attends que l'année prochaine, il commence la saison.
Il finit en trombe, mais il a eu du mal à s'acclimater au début. Mais il finit en trombe.
Encore par rapport à l'année dernière, qui était une petite saison.
Oui, c'est sûr. Après, il est en double-double moyenne toujours.
Il sauve sa saison sur les 15 derniers matchs.
Toujours aussi dissuasif contre Brooklyn.
C'est quoi, Pierrot? Brooklyn, je pense que tu mets 25 points contre Brooklyn.
Tous les Français.
Ouais, c'est horrible ça.
Oh, c'est cata. Il fait pas un match à 25 rebonds ou 20 rebonds?
Si, c'est ça.
À la fin de saison aussi. Maintenant, Rudy Gobert, où je l'attends, c'est contre les Lakers. Bon. Parce que la vraie carence des Lakers, c'est à l'intérieur, même s'ils risquent de jouer
Small Ball. Offensivement ou défensivement ?
Offensivement, il a des choses à faire. Je veux qu'il fasse entre deux.
Parce que défensivement, ils sont quand même durs à prendre, les deux, là. LeBron
oui, mais défensivement,
et
Luka. Défensivement, c'est Jackson Hayes en face. J'espère que tu vas avoir un impact et une influence sur les playoffs.
C'est dissuasif.
Avec le rebond, avec le contre, dans la peinture. Après, si les Lakers jouent Small Ball, je pense que Rudy, il va peut-être passer du temps sur le banc et que c'est Julius Randle qui va jouer.
Logiquement, oui. Il tient pas. Et tu sais que Luka Doncic adore Rudy Gobert.
Oui, oui.
Pour Nico, on va attendre qu'il ait sa bague. À
Nico, c'est
ans.
Une saison de plus. Au
oui,
bureau.
C'est ça. De plus en plus discret, mais toujours aussi.
Candidat au titre de coéquipier de l'année. Il y a ce trophée-là.
Il va l'avoir. Hein.
Bah, peut-être.
Et puis Moussa Diabaté, Tidjane Salin dans l'autre équipe abominable.
Moussa Diabaté, j'adore. Salin, c'est son énergie, ce qu'il a apporté. Parfois, je trouve qu'il ne rate pas assez le cercle, mais c'est quand même.
Lui, il n'a pas été chanceux. Parce que si Mark Williams s'en va, il avait une opportunité de folie. Quoi.
Alors il a profité aussi des blessures de Mark Williams. Et la bonne nouvelle pour Moussa Diabaté, c'est qu'il a transformé son toué en contrat garanti pour 3 ans à Charlotte. Donc, pour une fois, il peut passer un été peinard où il n'est pas en toué contract, il est en suspense. Il sait qu'il sera à Charlotte la saison prochaine, une machine à rebond.
Est-ce que Nurkic aura un vrai rôle ou c'est juste un truc qu'ils ont fait comme ça
Je ne sais pas, Nurkic.
Parce que là, ce qui est embêtant.
Nurkic, j'ai l'impression que ça vient servir de monnaie d'échange.
C'est ça.
Ça serait mieux pour Diabaté quand même. Parce que là, ce qui est embêtant, c'est qu'il est quand même troisième. Il y a eu des matchs où il n'a pas levé son cul du banc. C'est bon.
Et la question sur Salin, un des pires, voire le pire pourcentage de réussite de la NBA.
Ouais,
il est très en difficulté sur son shoot. Du mal à trouver sa place, joueur très jeune.
Comment un joueur comme ça peut progresser?
Il est un peu surexcité sur le terrain dès qu'il a le ballon, il a l'impression que c'est la patate chaude.
Trop nerveux. Il shoot nerveux,
après, tendu. Après, il joue dans une équipe de cancre. Hein. Avec le patron des cranques, la Melo Ball, le cirque Pimbert. C'est pas cadeau de jouer à Charlotte. Il y a rien n'est structuré. La Melo Ball qui t'envoie des tirs sur une jambe. Alors il a des chiffres, il a des.
Est-ce qu'au complet cette équipe elle peut avoir quelque chose à faire?
Les Hornets.
Ouais, avec Miles Bridges.
En fait, il y a un peu
Miller.
De talent. Objectivement, il y a un peu
sûr,
de talent.
Bien sûr, bien sûr.
Miles Bridges, est bon.
Oui.
Il est fort joueur. Ouais. Moi, je peux pas jouer avec la Melo Ball. Je peux pas. Je peux rien attendre.
Tu mets des taquets, toi.
C'est affreux. C'est affreux.
C'est affreux.
Tu préfères jouer avec la Melo Ball ou Nadir Ify?
Hein?
Waouh!
Moi, je préfère jouer avec la Melo Ball, ça voudrait dire que je serais à Hornets, je serais en NBA, ou plutôt
à des millions,
plutôt
des millions,
Paris Basketball. Mais
ouais, tu serais bien à Paris, là. Tu serais la star de l'Adidas Arena, mec.
C'est sympa le quartier en plus.
La chapelle là-bas.
La chapelle, c'est Walking Dead. Oh.
On a parlé de tout le monde.
Non, Ryan Rupert.
Ryan Rupert,
je pense que Ryan.
Allez, merci. Bonsoir. Rentre en Europe, copain.
Ouais, et puis je crois qu'il est vraiment. C'est pas un mec qui veut à tout prix s'accrocher à la NBA, okay. Qui est prêt à rentrer en Europe. Il y a pas comme Dadier, bon, qui était beaucoup plus en G-League, qui a joué
c'est
avec.
C'est quoi Je les ai Knicks notés, je l'ai même pas
sauf eux.
Kylian Hyde.
Encore, on est vraiment obligé de faire 3 minutes.
Non, mais c'est pour ça.
Pareil,
il y a Sidi Sissoko qui lui aussi a été transféré des Spurs à Portland, mais qui a joué 5 matchs et que je vois pas un énorme avenir dans la ligue non plus. Par contre, il y a un gamin qui, à mon sens, est bon, mais qui est dans la pire franchise pour jouer, c'est Ousmane Dieng, qui a OKC dans une équipe de mutants, qui a gagné 68 matchs. Il faut qu'il parte, Ousmane Dieng. C'est un bon joueur. Mais il peut pas à OKC, c'est bouché. Bon, c'est mort.
Il trouvera une porte de sortie et voilà, et ce sera bien. On a fait le tour cette fois-ci. Allez, on avance avec vos récompenses dans ce Basket Time spécial bilan de la saison. It's one of the most anticipated games of the NBA regular season. And the two leading candidates for MVP, Nikola Jokic and Shai Gilgeous-Alexander. Now SGA against the former Thunder guard Westbrook. Pull up three! A 40-point game! The 11th of the year for Gilgeous-Alexander.
MVP. Three letters. MVP.
Jokic draws a three, shooting 44% out there. A career high.
SGA now with it, averaging 33 points per game, leading the league. Third straight year, he's better than 30 points per contest, and he's got the last.
Jokic with assist number 20. The first ever 30-20-20 game in the history of the NBA. Nikola Jokic continuing to show he's one of the greatest of all time.
That MVP resume continues to improve.
Alors, le MVP, est-ce qu'il y a un match? Est-ce que tu les départages, Kylian, entre Jokic et Shai?
C'est un peu difficile à départager quand même. D'un côté, on a le meilleur scoreur de la ligue qui est efficace, fiable, leader, tout ce que vous voulez, avec 33 pions, 6 passes, 5 rebonds dans une franchise qui fait une saison historique en 68-14. Et d'un autre côté, bah, il y a le Joker qui est en triple-double de moyenne, qui est premier joueur de l'histoire à finir dans le top 3 en rebond, passe, point sur une saison. Individuellement, il est sur une autre planète, mais ses performances individuelles, elles ne coïncident pas forcément avec des performances à Denver qui finissent en 50-32. Alors, c'est soit on récompense purement individuellement un joueur.
Et là, c'est Jokic.
C'est Jokic. Et soit on récompense à la fois le côté individuel, mais aussi la performance collective que fait OKC. Et dans ce cas-là, on va pour Shai.
Est-ce que tu as une préférence, toi ?
Moi, j'ai une préférence pour Jokic.
Ok. Fred ?
Tu veux une préférence ou une explication aussi longue que la
tienne ? Les deux.
Alors, l'explication, soit tu choisis...
Alors, l'explication, si c'est pour dire la même chose, il faut qu'elle soit courte.
Oui, voilà.
Si non, elle non, est longue, il faut pas... que tu dises autre chose.
Non, non, c'est... alors juste pour Shai, il y a effectivement plein de choses qui peuvent expliquer qu'il puisse être MVP, meilleur joueur de la meilleure équipe. Donc déjà, par définition, c'est possible. Ensuite, Jokic, pour moi, il joue avec des peintres, parfois. Et grâce à... malgré ça, il arrive à être quatrième. Donc, j'exagère, je caricature volontairement. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'équipe de Shai est plus performante sans lui et peut gagner des matchs sans lui, alors que j'ai l'impression que Denver est beaucoup plus dépendant de Jokic. Et donc, de ce fait, par rapport à tout ce que vient de dire Kiki, et le fait que sans lui, cette équipe est beaucoup moins bonne, c'est un doux euphémisme, je dirais Jokic.
Tu dirais Jokic. Et toi, Steve ?
Moi, je vais aller sur Shai Gilgeous-Alexander, meilleur scoreur d'une équipe qui a gagné 68 matchs, la cinquième meilleure saison collective de l'histoire de l'NBA. 68 victoires sur une saison, c'est exceptionnel. Et il y a quand même 18 victoires de plus que Denver. 18, c'est énorme. S'il y avait eu 6, 7, 8, 18 victoires, les mecs, c'est monumental, le gap entre le OKC et Denver.
Est-ce que tu penses que OKC peut gagner des matchs sans Shai ?
Est-ce que je pense que OKC peut gagner des matchs sans Shai Gilgeous? Oui, oui, c'est possible. Oui.
Est-ce que Denver peut gagner des matchs sans Jokic?
C'est plus compliqué.
Si Jamal Murray est le vrai Jamal Murray, il peut gagner des matchs sans Jokic.
Ouais, si on commence avec des six, je te demande est-ce qu'ils peuvent? Donc, ta réponse, c'est moyennement, on va dire. Donc, par définition, un MVP, c'est lui qui peut changer la physionomie de son équipe. Jokic est largement dans la course.
Ouais, mais il y en a un qui n'a pas viré son coach, qui n'a pas fait virer son coach.
Non, mais ça, c'est dingue, ça, non ? Qu'est-ce qu'il leur a pris de virer
Non, mais ça faisait quelques temps que c'était dans les tuyaux, apparemment. Ils ont voulu le virer quelques fois déjà. Moi, je le trouve trop tard. Mais après, c'est une opinion
personnelle. Ah, tu penses qu'il fallait le faire quand même ?
Si tu dois le faire, il faut le faire avant. Okay. Sinon, laisse-lui tenter le coup.
Et le OKC Thunder de Shai va être champion ou pas ?
Non.
Non.
Non ?
Non.
Non, mais vous êtes un peu radicaux là quand même.
Méfiance quand même.
Boston.
Non, trop jeune. Ouais,
malheureusement.
Avec Boston, il y a Tatum quand même.
Finalement, OKC a une chance.
En fait, OKC est peut-être la seule équipe qui peut se poser sur tous les postes à Boston. Hartenstein, Chet Holmgren, c'est Al Horford, Kristaps Porzingis. Alors, c'est pas au même niveau, mais tu vois, les profils correspondent.
Complètement.
Ils ont des mecs, Kasson Wallace, Caruso, Lou Dort, capables d'imposer une intensité physique à Tatum, à Brown, à Derrick White. Ils ont tout en magasin.
Ouais, défensivement, c'est exceptionnel.
Donc, pour moi, c'est la seule équipe qui peut regarder les Celtics.
Bon, donc, le nom était un peu rapide, du coup. Qui est le rookie de l'année pour vous ? C'est Stephen Castle ?
Castle.
Leader au point, interception, quatrième meilleur passeur, 5 double-double, 24 fois, plus de 20 points. Et puis, on sait que rookie de l'année, le bilan ne compte pas. C'est plus les stats individuelles. Donc, Stephen Castle qui en a profité avec la blessure de Fox et de Wembanyama pour avoir beaucoup de responsabilités.
Le meilleur défenseur de l'année.
Meilleur défenseur de l'année.
Là, il y a peut-être un débat. Hein.
Moi, j'hésite entre trois. Lou Dort, Dyson Daniels et Draymond Green.
Ok. Ouais,
même pas Evan Mobley. Quoi.
Non.
Vas-y, dis-nous Evan Mobley.
Evan Mobley, quasiment le meilleur joueur des Cavs cette saison, défensivement.
Un petit peu, mais...
Défensivement.
Défensivement, ouais. Jared Allen est pas mal.
Défensivement, t'es pas aidé sur tous les postes quand même. Quand t'es au Cavs, au niveau arrière, c'est difficile. Hein. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs dans une équipe qui fait une saison incroyable. Depuis le départ de LeBron James, on n'a jamais vu une saison comme ça. Moi, j'opterais pour Evan Mobley, même si je pense que c'est une des catégories où il y a le plus débat, en effet.
Ok.
Moi, je vais dire Dyson Daniels, parce que j'ai envie de me concentrer sur les chiffres individuels, que c'est le 15e joueur de l'histoire à faire au moins 225 interceptions sur une saison, que depuis 31 ans, il n'y a jamais un mec qui a fait 3 steals de moyenne sur une rencontre, que c'est, mine de rien, si Atlanta est une équipe très moyenne défensivement, s'ils sont encore là en course, c'est en grande partie grâce à Dyson Daniels, parce qu'il faut combler les carences de Trae Young, qui est une pipe absolue défensivement. Les deflections, une stat qui est chère à Fred, il est premier dans les ballons touchés. toucher les ballons déviés. Voilà, j'ai envie de récompenser ce mec-là.
Donc tu lui as.
Alors juste, j'ai rebondir sur ce que vient de dire Stephen. J'ai l'impression qu'il a des analyses à géométrie variable.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Ben, quand on dit Lou Dort qui est le meilleur défenseur de la meilleure défense, c'est aussi logique qu'un Shea qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais apparemment, ça ne suffit pas.
J'ai pas compris.
Lou Dort est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue. Et toi, t'as voté pour Shea avant, oui, qui était le meilleur
attaquant.
Sauf
que si tu sors Lou Dort, c'est Caruso ou Cason Wallace. Donc pour moi, c'est la même chose en fait.
Ben exactement. Ouais. On est complètement d'accord. Il sort Shea, il gagne des matchs quand même. On est d'accord. Merci beaucoup, Stephen.
Qui est le meilleur sixième homme ?
Mais là, il n'y a pas débat.
Là, il n'y a pas débat, non.
Enfin, vous allez me dire qui, vous ?
Pritchard.
Pour moi, Peyton Pritchard, oui.
Moi, je veux dire Malik Beasley des
Pistons. Oh. Non, si, si. Moi, je...
Là, t'abuses.
Comme si c'était toi.
Sa saison, elle est fantastique, Malik Beasley.
Il a 16 points de moyenne, donc c'est 2 points de plus que Peyton Pritchard. Alors, il a démarré 18 matchs.
Peyton Pritchard, on peut quand même atteindre un petit bémol. Il a aussi des matchs où il passe à côté, quand même.
Oui, et puis
il a 2-3 trous d'air.
Et puis, il est dans une équipe où il y a quand même 6 ou 7 basketteurs meilleurs que lui.
Malik Beasley, la saison des Pistons, si Kate Cunningham fait une saison exceptionnelle, Malik Beasley, il est en grande partie responsable.
Oui, c'est vrai.
Je crois que c'est le 3e joueur de l'histoire à mettre plus de 300 tirs à 3 points sur une saison. Il est exceptionnel, Malik Beasley.
Complètement d'accord. C'est
non,
vrai
mais lui, il a rigolé comme si je disais un truc de merde.
Ah ouais.
Sortez-le.
T'as pas respecté.
Steve. T'as pas respecté. Oh.
C'est à cause de ta veste de golfeur.
T'abuses,
c'est
le golfeur. Mais quand j'avais dit Michael Beasley, c'est pour ça. Oh.
J'ai confondu.
Ok, et la meilleure progression de l'année ?
Bah moi, je l'aurais donné à Daniels.
Dyson Daniels, ok.
Pour le coup.
Moi, je vais donner à mon père, Christian Brown.
Christian Brown, ok, à Denver.
Le mec des Nuggets, qu'on pensait qu'il fallait remplacer KCP dans le starter. Il y avait quand même beaucoup de points d'interrogation.
Ah, oui.
Et Christian Brown l'a fait à merveille.
Eh ben moi, j'ai choisi Kate Cunningham.
Kate Cunningham.
Parce qu'effectivement, il score à peine plus, mais il score plus et son équipe gagne. Alors oui, il y a Beasley effectivement qui aide, mais lui, il fait une saison de patron.
Parfois, il est imprenable. Hein.
Il est imprenable.
Un petit big up à Ivica Zubac aussi.
Qui est pas loin derrière, qui fait une saison super saison, double double.
Exceptionnel.
Ouais. T'inquiète pas, on en reparlera.
Et moi, j'avais Trey Murphy aussi, mais malheureusement, il n'a pas joué assez de matchs. Trey Murphy qui fait une très belle saison aussi.
Et en coach ?
Et qui est le coach de l'année ?
Là, je vais peut-être faire. J'ai peut-être une petite dinguerie, gros.
Vas-y.
Bickerstaff ?
Toi, t'es qui, toi ?
Ouais, j'aurais dit Atkinson.
Ouais, Fred ?
Moi, j'hésitais entre Atkinson, Degno et Bickerstaff. Je vais dire Bickerstaff.
Oui, on ne regarde pas comme ça, moi j'ai pas d'avis. Donc,
passer de dernier en playoff direct.
Peut-être que Kylian Verov va pouvoir rigoler comme Malik Beasley. Je vais dire Tyronn Lue.
Okay.
Je vais dire Tyronn Lue parce que tu perds ton deuxième meilleur joueur qui est Paul George, Kawhi Leonard qui joue 30 matchs de l'année et tu gagnes quand même 50 matchs et tu finis en haut, que tu as une défense de plomb, que James Harden fait une saison exceptionnelle, que Zubac fait une saison exceptionnelle, que tu es en troisième meilleure défense de la ligue. Mec, Leonard il joue 30 matchs. Hein. Et t'as pas Paul George, l'éclosion de Norman Powell, donc je trouve que Tyronn Lue a fait du très bon travail.
Pour une fois, Leonard va jouer les matchs qui comptent et ça,
c'est plus important.
Oui. Ouais, et il est plutôt en forme.
Il est plutôt en forme,
attention.
Bien, on va voir désormais à qui va la récompense de Basket Time, c'est l'heure du quiz.
Dis tout le nom.
Mais toi, t'as hésité.
J'ai hésité.
Oui, t'as.
Non, chaque fois, dans le doute, tu me le donnes pas, donc ça m'énerve. J'arrête de jouer.
Qui boude, je sais pas. C'est une question.
Non, Fred, tu joues.
Mais je joue pas. En fait, je ne peux pas gagner avec toi. À chaque fois qu'il y a un.
Non, sois honnête, Fred. Est-ce que tu m'as entendu le réclamer ?
Je t'ai entendu.
Je t'ai entendu.
Bah, j'ai voulu mentir et après.
Bon, c'est un bilan. On fait le bilan, on continue le bilan dans le quiz. On va sortir de.
Il n'y a pas de blind test ?
Ah, il y a un blind test, bien sûr.
Ah.
On va sortir aussi de la NBA. On va parler un peu d'Euroleague, un peu de basket français.
Ah ouais, ok.
Mais on démarre donc par le blind test. Premier extrait.
C'est moi.
Non, il l'avait pré-shot.
Ah, c'est Fred. J'ai l'habitude avec le Kikadi, j'ai l'habitude. C'est Fred qui est parti en premier. J'aurais presque pu te la donner pour l'anticipation, mais bon, c'est comme ça.
Ah, hein. C'est pas grave.
T'as pris une Dyson en fait, Daniel, soit t'as bien participé.
En fait
t'as
j'ai envie que Fred participe au coup jusqu'à la fin, donc je lui donne le point.
Deuxième extrait. Vous aider.
C'est Coldplay ça non?
Oui, bravo Kylian, excellent, c'est Coldplay, The Scientist,
musique de Babtouz.
Chanson sur les regrets.
Musique de Babtouz,
ça.
C'est
Chichi. Wow, ça va, merci. Ça me fait plaisir.
Allez, troisième extrait.
Les Beatles.
Les Beatles, oui. Bien sûr, bravo All Steve.
It's so far away.
J'ai failli dire Mr. Bean, c'est dans ça que j'ai vu la dernière fois.
Vous avez compris le thème bilan, hein. c'est un peu sorti de Nec Marron, il n'y en avait pas vraiment.
Oui.
Allez, quatrième extrait.
C'est
Frank Sinatra.
Excellent. My Way, Frank Sinatra. Ça, c'est une chanson qui a joué.
Reprise.
À l'ancienne.
Reprise mille fois par tout le monde. Par oui, bien sûr. Oui. Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
C'est Frank Sinatra qui a repris.
Sinatra qui a repris.
Claude François qui a inspiré Frank Sinatra.
Claude François, c'est.
Pourquoi elle a touché cette ampoule?
Exactement.
Surtout
on fera des émissions hommages, des trucs de fou. Donc c'est pour Fred, hein.
Pour Fred, évidemment.
Et dernier extrait.
Ah oui.
Ice Cube.
Today was a good day.
Was a good day. Just waking up in the morning, gotta thank. Donc après le blind test, Stephen et Fred ont 2 points, Kylian Vérov 1 point.
Sur une musique de Babdou.
Allez, on va enchaîner une petite série de questions statistiques de la saison. Wow. Qui termine en moyenne, hein, qui termine meilleur rebondeur de la
Sabonis,
NBA.
Sabonis.
C'est Domantas Sabonis. 13,9 rebonds de moyenne.
Et là, la machine à rebound.
Machine à stats, mais...
Machine à stats.
Ouais. Est-ce que c'est autre chose qu'une machine à stats?
Non. Non, pourtant j'adore et j'adorais le père, mais non, à un moment, c'est juste une machine à stats.
Ok. Qui termine meilleur marqueur de l'Euroleague?
C'est Carson Edwards.
Non, il est deuxième.
Koff.
Kendrick Nunn, 21 points de moyenne.
C'est pas lui qui a signé une extension incroyable. Ans,
si, si, bien sûr.
Et donc ?
Et dans un couvent.
Non. Et...
Très fort, lui. Hein.
Très fort et une très belle extension.
Il va finir dans un couvent, Nunn.
Très bien. C'est pas mal. Attention, j'ai une un peu plus compliquée. Qui termine meilleur rebondeur offensif de l'Euroleague ?
Zubac ? Ah, de l'Euroleague.
Walter Tavares ? Non, c'est pas Walter Tavares. C'est pas Milutinov.
Dan Oturu.
C'est pas Dan Oturu. C'est un bon pivot qui a été blessé longtemps.
Devin Booker.
Et qui vient de se faire sortir. Hein.
Qui vient de perdre.
Hein,
étoile rouge alors.
Philippe Petroussev.
Pas Petroussev.
Ah,
c'est Joël Bolomboy.
C'est Joël Bolomboy. Ouais, 3,4 rebonds offensifs par match quand même.
Là, c'est beau. Ouais,
belle bestia ce Joël.
Bolomboy.
Stephen
Ukrainien, passeport russe, mais il a rendu son passeport russe.
Qui vient de 2 points, Fred, 2 points. Qui est actuellement, hein, puisqu'on n'est pas à la fin de saison, le meilleur passeur du championnat de France?
TJ Short.
C'est TJ Short. 8 passes de moyenne, TJ. Solide, TJ.
Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec, TJ.
Et attention, on enchaîne.
Ce stop and go, là, on est roulé contre... Ah oui, incroyable.
C'est sublime.
On enchaîne toujours sur la Betclic Elite. Qui est deuxième de ce classement?
Passeur?
Ouais.
Hugo Benitez?
Non. Ouais, mais toi tu peux pas faire non, je sais pas, parce qu'avant tu nous saoulais avec ouais, la NBA c'est naze et tout, le basket.
Deuxième meilleur passeur de Betclic Elite.
Donc Fred,
mais j'ai juste pas la chaîne, c'est pas de ma faute.
Non, mais t'as pas la chaîne.
Théo Malédon.
C'est pas Théo Malédon. Je pense que c'est un espoir du basket français, je pense.
Nolan Traoré ?
Non.
Noah Pender ?
Moi je connaissais pas.
Je connaissais pas.
Peut-être c'est pas du tout un espoir. Hein.
Ah ouais, là
je. C'est pas un joueur de Saint-Quentin ?
Non, c'est un joueur de La Rochelle.
Oh waouh.
Ah, Matteo Leray.
Oui.
Matteo Leray, bravo.
Ouais, c'est un petit jeune formé à Cholet Basket. Ouais, même tu sais, Cholet.
Matteo Leray, dis-nous un mot de Matteo Leray, parce que c'est ça.
Cholet, sa forme en passe ? Vraiment ?
Non, mais ça forme beaucoup de meneurs en ce moment.
Ouais.
Nathan Dessouza, Matteo Leray. Écoute, c'est un meneur de jeu. Bon, il vit une saison compliquée avec La Rochelle.
La Rochelle, en Pro B.
Mais je crois qu'il va à Chalon-sur-Saône l'année prochaine en Betclic Elite. Voilà, c'est une petite news.
6 points pour Steve, 2 points pour Kylian, 2 points pour Fred. On va revenir à la NBA, on va voir. Savez-vous quel joueur a vendu le plus de maillots?
C'est Lucas Doncic.
Ah, c'est moi.
Non,
c'est Steve. Il a dit Luca.
Lucas, c'est son prénom, non?
Mais il y en a beaucoup des Lucas.
Et pourquoi c'est une info importante?
Parce que c'est le premier Européen à finir numéro 1.
Premier étranger. Et c'est le premier depuis 2013 qui n'est ni LeBron James ni Stephen Curry. C'est quand même incroyable cette stat. Et Wembanyama est 6e à la vente de maillots. Ça fait un point de plus pour Steph, j'ai déjà compté. Oui, 7.
Je sais pas, moi, c'est toi le. C'est
peut-être que j'ai carotté un point là, je sais pas. 7-2-2.
Mousse pas trop,
il va gagner.
Alors, on va enchaîner avec Dominique Malonga ou Madeleine Malonga. Les deux ou aucune des deux. Vous savez qui c'est Madeleine Malonga au moins?
Madeleine Malonga, c'est la judo 4.
Championne olympique de judo. Excusez-moi, respectez là quand même.
Non, j'ai respecté, moi j'ai trouvé.
Dominique Malonga.
Ou le café Malonga aussi.
Dominique Malonga ou Madeleine Malonga, c'est parti. On démarre avec Stephen Brun.
Ouais.
Je suis né à Soisy sous Montmorency.
Soisy sous Montmorency, c'est ma gossure, Madeleine.
C'est Madeleine, Dominique.
Eh ouais.
Na Yaoundé. Kylian, médaillé de bronze dans un championnat d'Europe en 2022.
Potentiellement les deux.
Et c'était le piège, il n'y a que Madeleine. Madeleine Malanga, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2022. C'était un championnat du monde espoir qu'a disputé Dominique. Espoir, je ne suis même pas sûr d'ailleurs, je n'ai pas noté, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Et enfin Fred, médaillé d'argent olympique.
Les deux.
Bravo, les deux. Excellente réponse de Fred, troisième point
Dominique.
Pour Fred. Vrai ou faux sur des stats NBA? Steve, oui. Nikola Jokic figure dans le top 5 en points par match, rebond par match, passe par match, bloc par match et steal par match.
Je pense qu'il y a une petite erreur. Il ne file pas dans le top 5 des comptes, donc je vais dire faux.
Ouais, ouais. Les comptes, il est à la rame. Oui. Complet, et c'est la seule stat dans laquelle il n'est pas de toutes celles que je vous ai citées. Donc c'est bon pour Steve. Kylian, Steph Curry n'est pas dans les 10 meilleurs marqueurs par match en moyenne cette saison.
C'est
en
vrai,
NBA.
C'est vrai.
C'est vrai, il est 11e avec 24 points et demi de moyenne.
Le mec a dit c'est vrai comme si c'était.
Non, je le voyais
évident,
je, non mais je le voyais plus loin,
Et Fred, Rudy Gobert termine sa saison à 0 sur 1 à 3 points. Il est mort de rire qu'il y a. Non, c'est faux, il a 0 sur 0.
Il n'y a pas
de 0-0.
Il y a toujours un par saison.
Ouais, ouais, je pensais aussi qu'il y en avait.
Écoute, j'ai regardé.
Il n'y a pas eu un vieux ballon à la fin.
Ouais, c'est ça.
Donc, on arrive au bout là, mais j'ai encore des petites questions très sympathiques qui vont vous énerver. Quel joueur a joué cette saison aux Žalgiris Kaunas et à Charlotte?
C'est Lonnie Walker.
Et non, mais... justement, c'était ça le piège.
Ah non. C'est Isaiah Wong.
C'est Isaiah Wong, bravo. Bravo, parce que là, joueur obscur.
Ouais, j'aurais dit Walker.
Vrai joueur obscur. C'est même pas qui c'est.
En plus, tu l'as fait à l'envers. Parce qu'il est démarré à Charlotte. Il a fini à Žalgiris, petit coquin.
Oui, j'ai fait à l'envers, justement, petit parce que Lonnie Walker a joué aussi à Žalgiris.
Il a prolongé 3 ans, Isaiah Wong.
À Žalgiris?
Ouais.
Tu sais pas qui c'est, Fred?
Pas du tout.
Ensuite, je vous fais pas le bilan des points, parce que c'est indécent. Êtes-vous capable de me dire quelle est l'action NBA la plus visionnée cette année sur les réseaux sociaux? Alors, un point pour le joueur.
Zion?
Non, un point pour l'adversaire.
C'est Ja Morant,
Victor Wembanyama.
Un point pour l'action.
Ja Morant qui dunk sur Victor Wembanyama?
Alors, c'est Ja Morant, un point. C'est contre...
Enfin, qui fait un qui tourne comme ça sur lui en
360.
L'air. 360 en l'air. 360. Sur un big man.
C'est 360 en changeant de main.
Ah ouais, 360, c'était
après
bien.
Après une fin de dunk contre okay. Brooklyn. Je t'accorde 2 points, Fred.
C'est bien 2 points.
2 points, c'est beaucoup. Points.
C'est bon, j'ai pas dit contre. Oh, c'est bon.
Tu m'as dit San Antonio au départ. Hein.
Oui, oui.
J'aurais pu te faire sortir du studio. Hein.
Vas-y.
Qui a reçu le trophée de Rising Star de l'Euroleague? Excellent. Et on a. Ah non, on n'a pas fini. Comment s'appelle le coach de Denver?
Le dernier dinosaure.
Wow.
Impossible.
Lille.
David.
Nikola Jokic.
David.
Oui, pas loin.
Dan Lille.
Non, David, il s'appelle, je te dis.
David.
Oui, mais son nom, c'est.
David Kahn.
Non, c'est David Adelman.
Adelman. Ah,
David Adelman.
Adel.
C'est le fils de Rick Adelman, non?
1, 2, 3, 4, 5.
C'est le fils de Rick Adelman?
9, 10, 11. 11, 5.
Personne m'écoute dans ces missions.
Non, parce que tes vannes, j'en ai marre.
Mais c'est pas une vanne, c'est pas une question. C'est le fils de Rick Adelman qui coachait Portland, c'est une vraie question.
Je crois, ouais. Je crois.
Donc 11-5-5, je pense que vous avez perdu, parce que vous allez me donner chacun votre tour, un des 10 meilleurs marqueurs de l'Euroleague cette saison.
Oh wow,
Kylian, tu démarres.
Nen.
Kendrick Nen, ça te fait un point de plus. Fred.
Vezenkov,
c'est bon, un point de plus. Steve.
Bah, Carson Edwards.
Voilà, c'est bon. Après, Kylian.
Shorts.
TJ Shorts, 4e, c'est bien, il est fait dans l'ordre.
Je fais pas exprès.
Mais... Je vais peut-être rajouter un point juste pour le suspense. Fred.
Je sais pas.
Tu sais pas si, tu sais, quand même.
Non.
Pense un peu patriote, je sais pas quoi, je sais pas moi, un peu. La France, merde. Ficelle.
Ah, Fred.
T'as dit Riffy?
Mais non.
Mais non.
Oh, Evan Fournier,
10e.
Ah oui, merde.
Kylian. Un autre Français. Qui fait une saison incroyable, qui a complètement relancé sa carrière.
Oui, meneur de jeu.
Allez, c'est bon, stop. Je vous les donne tous, allez, c'est fini.
Nigel Hayes-Davis est dedans.
Alors, Nigel Hayes-Davis est dedans.
Francisco.
Non, ah, oui. Théo Malédon.
Malédon. Ah, oui.
Nikola Mirotic, Kevin Punter et Zach Lidey. C'est une victoire écrasante de Stephen Brun. À la semaine prochaine.
Ciao. RMC Basket Time.